Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi, pile, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous de la mi-journée sur Europe 1, grand rendez-vous d'information. La sécurité sanitaire sera-t-elle suffisante pour la rentrée scolaire ? Oui, dit le ministère de l'Éducation. Oui, dit le ministre Jean-Michel Blanquer. Non, disent les syndicats de profs qui ont été entendus en visio au ministère de l'Éducation nationale ce matin. Alors, qui dit vrai ? On verra ça dès le début de ce journal avec Virginie Riva de la rédaction d'Europe 1. On aura également le point de vue des parents d'élèves avec le président de l'APEL. Et puis, on aura un point de vue médical avec le professeur Philippe Amouyel. Le professeur Amouyel qui évoquera également la troisième dose de vaccin pour les plus âgés. C'est pour la rentrée pour les plus âgés. Et si au final, la troisième dose, ça ne serait pas pour tout le monde en réalité. On verra ça avec le professeur Amouyel dans un instant. Est-ce que vous connaissez le village martyr de Maillé en Indre-et-Loire ? Un massacre y a été commis par les nazis il y a 77 ans, jour pour jour. Xavier Bertrand s'y est rendu ce matin pour participer à l'hommage aux victimes. On sera avec le maire de Maillé qui nous racontera ce qui s'est passé ce 25 août 44. L'avocat de Cédric Jubillar sera en direct avec nous. Il dépose aujourd'hui une demande de remise en liberté de son client Delphine Jubillar, a disparu il y a plus de 8 mois. Et puis le Real Madrid aimerait bien se faire un beau cadeau. Le club espagnol propose 160 millions d'euros pour acheter Kylian Mbappé. Le PSG dit non. Est-ce qu'il pourrait changer d'avis, le PSG ? On verra ça avec Simon Rubin. Les profs ne seront pas dans les salles de classe avant le 1er septembre prochain, mais les syndicats étaient, eux, ce matin avec le ministère en visio. Ils voudraient que le ministre muscle son dispositif sanitaire, qui est déjà de niveau 2 pour la rentrée. Virginie Riva, de la rédaction d'Europe 1, le ministre ne devrait pas changer son dispositif, Virginie. Mais il y a eu tout de même quelques annonces, hein.
Oui, alors effectivement, le ministre en tient au niveau 2 du protocole tel qu'annoncé dimanche, avec un gros point d'inquiétude toujours côté syndicat pour la cantine, où les mesures de distanciation et de brassage ne sont pas renforcées ce matin. Après, l'idée, c'est d'adapter le niveau de protocole en fonction de l'évolution de l'épidémie localement. D'ailleurs, en ce moment même, c'est la situation en Outre-mer qui est en train de se décider, avec l'hypothèse d'une rentrée décalée dans les Antilles et en Guyane. Sur la question du port du masque, qui n'est plus obligatoire en cours de récréation, là aussi, la rue de Grenelle explique que si localement le préfet l'exige de nouveau en extérieur pour toute la population, cette décision s'appliquera également aux enfants. En réalité, on le sait, le gouvernement mise sur la vaccination. On est autour de 40% des plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet, a dit ce matin le cabinet. L'objectif, c'est 60% le plus rapidement possible. Aussi, des centres de vaccination éphémères à côté des collèges et des lycées vont voir le jour avec des déplacements qui seront organisés, des vaccinations qui auront lieu aussi au sein même des établissements. Enfin, les syndicats attendent encore des clarifications sur les capteurs CO2, vous savez, pour purifier l'air. À ce stade, le ministère lance un état des lieux pour voir quelles communes ont besoin d'aide financière, mais sans préciser ni le calendrier ni le montant.
Merci Virginie pour toutes ces informations. Quel est l'avis des parents d'élèves ? Merci d'être en direct avec nous, Gilles Demarquet, président de l'APEL. Bonjour.
Bonjour Romain Desarbres.
Les parents d'élèves de l'École Libre. Est-ce que vous êtes serein, vous, pour la rentrée ?
Écoutez, nous allons avoir une rentrée qui n'est pas une rentrée normale, mais je pense que l'un des objectifs est quand même de maintenir l'école ouverte. Ça reste pour nous plus jamais une nécessité, à la fois pour l'équipe des jeunes et pour la continuité de leur apprentissage. Alors ça passe bien évidemment par le maintien d'un protocole qui est strict pour limiter la propagation des virus, et ce qui est proposé va dans ce sens. Donc on a tous une responsabilité collective face à cette pandémie, bien évidemment. Donc il faut que l'on puisse respecter les gestes barrières, il faut que l'on puisse avoir des mesures d'aération et tous les éléments qui sont proposés actuellement par le protocole sanitaire de niveau 2 tel qu'il a été décrit par le ministère. Mmh. Nous rencontrons ce soir le ministre, je pense qu'on aura également plus de précisions et peut-être de réponses à certaines questions que l'on peut avoir. Vous parliez tout à l'heure de 40% d'élèves vaccinés. C'est vrai qu'on en a qui ne peuvent pas être vaccinés, les moins de 12 ans. C'est vrai qu'il peut y avoir des parents qui pourraient avoir eu envie de faire vacciner leurs enfants, mais on connaît les délais. Il faut 4 semaines entre deux injections, plus 7 jours pour que le schéma vaccinal soit complet. Ça veut dire que tous les enfants, même si tous les jeunes de 12-17 ans, même s'ils le voulaient, ne pourraient pas forcément l'être. Voilà, vous voyez, donc il y a plein de, encore encore de questionnements, d'interrogations, mais nous, on va mettre l'accent vraiment sur, en cas de fermeture de classe, sur la continuité pédagogique, parce qu'il est vraiment très important qu'ils puissent être assurés de la même manière pour des enfants qui seraient en présentiel, des enfants qui seraient en distanciel. Il ne faut pas qu'il y ait d'enfants qui soient mis de côté.
Merci beaucoup Gilles Demarquet, car rendez-vous aujourd'hui en fin de journée avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Merci d'avoir été dans Europe Midi. On est avec vous, professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour.
Rentrée
en présentiel, aération renforcée, fermeture des classes dès le premier cas de Covid pour les primaires. Est-ce que vous, ça vous paraît suffisant?
Alors, ces mesures sont claires, suffisantes, il va falloir voir comment elles vont être appliquées. Je pense qu'il faut bien comprendre que le foyer maintenant de prolifération du virus va se retrouver chez les personnes les moins vaccinées, donc les plus jeunes, les moins de 12 ans qui n'ont pas encore accès au vaccin. Et donc toute la question va être, pourra-t-on appliquer correctement les mesures barrières? Et pas une seule, il faut en appliquer plusieurs pour réduire cette circulation du virus, protéger les enfants, mais protéger également les familles dans lesquelles ces enfants vont rentrer.
C'est ça. Selon le ministre, l'immense majorité des profs sont vaccinés ou en passe de l'être. Est-ce qu'il faudrait malgré tout leur imposer le pass sanitaire? Quelle est votre position? En clair, est-ce qu'il faut la vaccination obligatoire pour les profs?
Quelque part, je pense qu'on va finir d'une manière ou d'une autre à la vaccination obligatoire, non seulement pour les enseignants, les personnels scolaires, mais également le reste de la population. C'est une question de temps. D'ici la rentrée, on n'arrivera pas. Il faut prendre l'enjeu de la rentrée en main actuellement. Et ce sont les mesures barrières, le respect de ces mesures barrières, en particulier la discussion sur les capteurs de CO2, qui sont un enjeu essentiel. L'aération est un enjeu essentiel pour résoudre le problème de la rentrée et éviter d'avoir une saturation trois semaines plus tard dans les hôpitaux.
Professeur, j'ai une question également à vous poser, plus générale. Là, on quitte le domaine de l'école. La troisième dose du vaccin, c'est aujourd'hui pour les plus de 80 ans, enfin à partir du 1er septembre. Ensuite, ça sera pour les plus de 65 ans et puis pour les personnes très, très fragiles. Est-ce qu'au final, et pourquoi pas le dire tout de suite, ça ne sera pas pour tout le monde cette troisième dose?
Alors, pour le moment, il faut utiliser les doses à bon escient, c'est-à-dire qu'on a encore une poche de patients fragiles qui n'ont même pas eu une première dose. On a la question qui va se poser d'ici la fin de l'année pour les moins de 12 ans. Alors, sur les personnes les plus fragiles, oui, c'est ce qui est en train d'être fait, les plus de 80 ans. Déjà, ça avait été commencé antérieurement puisqu'on se rendait compte que les réponses immunitaires étaient moins bonnes. Maintenant, l'extension aux 65 ans, c'est aider à faire passer ça avec la vaccination antigrippale, hein, qui a la même limite de temps. On sera à une certaine distance, on peut imaginer que ce sont les gens les plus fragiles. Maintenant, quant à la généralisation, je pense qu'il faudra attendre et d'avoir plus de doses et d'avoir des études qui permettent de montrer leur intérêt. Et enfin, peut-être passer à la vaccination obligatoire pour tous.
Merci beaucoup, professeur Amouyel. Très bonne fin de journée. Au revoir. Jean-Rémy Baudeau, en direct de l'Élysée. Deuxième rentrée sous Covid pour le gouvernement. Premier conseil des ministres de rentrée ce matin. Jean-Rémy, vos informations. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles restrictions? Dans quel état d'esprit est le gouvernement? Dites-nous.
Alors Romain, pour l'heure, on va essayer de rassurer nos auditeurs, pas de restrictions prévues en métropole pour l'instant, mais un suivi très précis, très fin de la situation a été fait ce matin lors du Conseil de défense Covid, sachant qu'aucun conseiller, aucun ministre, ni aucun proche d'Emmanuel Macron ne se risquerait à affirmer que de nouvelles restrictions sont impossibles. D'autant qu'elles existent, ces restrictions, en Outre-mer notamment, Virginie Riva en parlait au début du journal. Selon nos informations, Gabriel Attal doit annoncer un report de la rentrée des classes en Guadeloupe, en Martinique et dans les zones rouges de Guyane, report à la date du 13 septembre. Le Covid, toujours donc au cœur des préoccupations gouvernementales, la promotion de la vaccination, la troisième dose, le pass sanitaire, tout ça sera évidemment au cœur des prochaines sorties publiques. De son côté, ici à l'Élysée, on veut montrer que le pays et le président ne se résument pas qu'au Covid. Afghanistan, relance économique, attractivité, sécurité, Europe. Emmanuel Macron va d'ailleurs multiplier les déplacements dans les prochains jours, notamment en Irlande, en Irak ou à Marseille.
Report de la rentrée scolaire, redites-nous, Jean-Rémy, en Guadeloupe.
En Guadeloupe, en Martinique et dans les zones rouges de la Guyane, report à la date du 13 septembre. A priori, les élèves ne seraient pas en vacances, il y aurait une continuité pédagogique. Mais tout cela sera dévoilé après le Conseil des ministres d'ici quelques minutes ou une heure ou deux.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau. L'Afghanistan, on change totalement de sujet. Strasbourg, tiens, c'est une information qui est tombée il y a quelques instants, annonce qu'elle va accueillir 150 réfugiés afghans. Strasbourg, tous ceux qui le veulent ne vont pas pouvoir décoller, tous les Afghans qui veulent quitter le pays ne vont pas pouvoir décoller. Je voudrais qu'on écoute, avant d'entendre Louis Dragnel, j'aimerais qu'on écoute ce témoignage recueilli par Yasmina Katou, témoignage d'un Afghan qui va rester bloqué à Kaboul. Écoutez.
Pendant plusieurs années, Mohamed a travaillé pour l'armée française comme interprète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le traducteur est terré dans un appartement à Kaboul.
Pour les gens comme moi qui ont travaillé pour l'OTAN, pour les forces françaises, c'est très dangereux en ce moment de rester à Kaboul. Je suis caché à la maison, je ne peux pas sortir. Je m'inquiète pour moi et ma famille.
Depuis l'arrivée des talibans, chaque jour, la menace pèse encore un peu plus sur Mohamed et ses collègues.
Pour les interprètes qui n'arrivent pas d'être évacués, ils vont risquer leur vie, ils seront désespérés.
La confirmation hier soir du départ des Occidentaux le 31 août affole ce père de deux enfants. Dans la panique, c'est en anglais, une langue qu'il maîtrise mieux, qu'il lance un dernier appel à la France.
I hope that the French government...
J'espère que le gouvernement français ne va pas abandonner les Afghans, surtout les interprètes. Leur vie est en danger.
Dernier espoir pour Mohamed, embarqué aujourd'hui dans un avion qui décolle de Kaboul pour Paris, l'un des derniers, quelques heures avant la fin du pont aérien français, demain.
Louis Dragnel avec nous, chef du service politique d'Europe 1. Louis, ce que vous nous dites ce matin, en fait, c'est que pour la France et pour les services de renseignement français, on est déjà dans l'après 31 août. Hein, et à Paris, on estime que la mission de la France a été remplie.
Absolument oui. Et d'ailleurs, plusieurs acteurs de premier plan de l'opération d'évacuation me l'ont confié. Il faut éviter à tout prix qu'on puisse comparer la situation des Afghans avec celle des Harkis. Vous savez, ces Algériens qui avaient combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui avaient été ensuite maltraités par la France. La situation d'aujourd'hui n'a rien à voir. En Afghanistan, la France est venue en aide au peuple afghan, alors que s'agissant des Harkis, l'Algérie était encore un département français. Bref, dans les milieux du renseignement proche de l'Élysée, on considère que la France doit être fière de son action, notamment d'anticipation. Depuis 2018, entre les 1057 personnels civils locaux ayant aidé l'armée française comme interprète par exemple, et les 600 agents et leurs familles ayant travaillé pour l'ambassade de France, eh bien au total, 1400 Afghans ont été rapatriés en France avant la prise de pouvoir des talibans, c'est-à-dire avant que la situation ne se dégrade. Et pour ce qui est des Afghans qui cherchent encore à fuir, à Paris, on considère aujourd'hui que l'essentiel du devoir de la France est accompli.
Alors, qu'est-ce que les services de renseignement craignent pour l'Afghanistan dans les semaines qui viennent ?
Alors, la DGSI, mais surtout, vous savez, la DGSE, le renseignement extérieur, se pose une question. Comment vont agir les talibans ? Vont-ils se réconcilier avec les combattants de Daesh qu'ils détestent ? Vont-ils s'entendre avec Al-Qaïda ? En clair, l'Afghanistan peut-il devenir à nouveau un sanctuaire de djihadistes et donc une nouvelle menace pour l'Occident ?
Merci beaucoup Louis Dragnel pour toutes ces informations. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec l'avocat de Cédric Jubilard. Il va déposer une nouvelle demande de remise en liberté de son client. Le mari de Delphine Jubilard est en détention provisoire depuis 2 mois. Delphine Jubilard, elle a totalement disparu depuis plus de 8 mois. A tout de suite, restez bien avec nous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La disparition de Delphine Jubilard, ça fait plus de 8 mois que la jeune femme a disparu. C'est son mari, Cédric, qui est le principal suspect. Il est mis en examen depuis 2 mois. Il dort en détention provisoire depuis 2 mois. Bonjour Maître Alexandre Martin. Vous êtes l'avocat de Cédric Jubilard. Merci d'avoir choisi Europe Midi pour parler. Vous déposez une demande de remise en liberté de votre client. Expliquez-nous pourquoi.
Nous déposons une demande de mise en liberté. La première raison, c'est que notre client clame son innocence. La deuxième, c'est que cet homme est en détention depuis 2 mois et à ce jour, il n'a pas été entendu. Manifestement, la justice n'est pas pressée de l'entendre puisqu'il sera auditionné dans le courant du mois d'octobre. On ne voit pas pourquoi cet homme, après avoir lu de manière approfondie ce dossier, restera en prison avec des charges aussi ténues.
Alors, des charges aussi ténues, il y a tout de même quelques points suspects, notamment la couette. Cédric Jubilard a mis la couette de sa femme à laver dans la nuit de la disparition. Avouez que c'est au minimum étonnant.
Ah, c'est un point sur lequel on a grandement évolué, puisque ce que vous affirmez, c'est ce qu'ont dit les gendarmes. Mmh. Ou qu'on fait dire les gendarmes par M. le procureur de la République, c'est absolument faux. Cette couette sera saisie 34 heures après et il n'est absolument pas établi qu'une machine à laver ait tourné dans la nuit et la couette n'a pas été découverte dans la nuit comme cela a été dit. Elle a été découverte 34 heures après. Et puis, Vous savez, cet élément qui est présenté comme un élément accablant, eh bien, il faut savoir, et la Défense est restée stupéfaite cet été, que cette couette a été envoyée à l'expertise courant juillet, fin juillet. C'est dire si la justice s'est empressée d'analyser cette couette. Bon, pour être plus sérieux sur ce sujet, c'est M. Jubilard qui appelle les gendarmes. Vous pensez bien que s'il avait quelque chose à cacher, eh bien, il aurait fait disparaître cette couette. Elle était au vu et au su des gendarmes lorsqu'ils sont arrivés. Ils l'ont saisie 34 heures après dans une machine à laver dans laquelle elle avait été introduite. Je ne sais même pas si c'est par Cédric Jubilard ou par sa maman lorsqu'elle a passé la journée le lendemain à la maison. Bon, de toute façon, nous attendons avec sérénité le retour de cette expertise qui n'apportera rien de plus puisque M. Cédric Jubilard n'a rien fait.
Est-ce que vous réclamez de nouvelles recherches? Parce que à ce jour, Delphine Jubilard est une personne disparue. Aucun corps n'a été retrouvé.
Oui, évidemment. Enfin, comme tout le monde, nous souhaitons que les recherches continuent pour que Delphine soit retrouvée. Alors, de manière très optimiste, tout le monde espérerait qu'elle soit retrouvée vivante. De manière plus rationnelle, malheureusement, on peut craindre le pire. Mais Cédric Jubilard attend avec impatience que les recherches avancent et qu'on puisse comprendre ce qui a pu arriver à cette jeune femme.
Merci beaucoup, maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard, d'avoir parlé dans Europe Midi. Merci à vous. Bon après-midi, maître.
Europe Midi, Romain Desarbres.
On change totalement de sujet. Attention, si vous avez des titres restaurants, c'est ce que vous donne votre employeur, que ce soit avec une carte ou avec des chèques papier, j'allais dire, à l'ancienne. Il y a du nouveau, Carole Ferry avec nous. Déjà, la bonne nouvelle, Carole, c'est que le plafond va rester encore quelques mois à 38 euros. Hein.
Oui, jusqu'au 28 février 2022 exactement. Vous savez, avant le Covid, le plafond était à 19 euros par repas. Avec les restaurants fermés, les gens n'ont pas pu dépenser leur cagnotte. Donc, à la réouverture, ce plafond a été doublé à la fois pour soutenir les restaurateurs, mais aussi pour permettre aux Français de dépenser leurs euros accumulés. Ce plafond devait repasser à 19 euros le 1er septembre. Il a donc finalement été prolongé. Pour les restaurants, il reste à 19 euros en revanche dans les supermarchés.
Mais les restaurants sont restés fermés très longtemps, en 2020, en 2021 également. Certains détenteurs de titres restaurants n'ont pas dépensé les petites fortunes, on peut le dire, plusieurs centaines d'euros.
Effectivement,
hein. Hein, plusieurs centaines d'euros sur leur compte. Alors, est-ce que ces titres 2020 non dépensés risquent d'être perdus à la fin du mois, c'est-à-dire dans les prochains jours?
Alors, si vous avez une carte, les sommes non dépensées seront automatiquement transférées, donc aucun souci. Si vous avez des titres papier, en revanche, vous ne pourrez plus les utiliser à partir du 1er septembre, c'est mercredi prochain. Il faut donc les rapporter à votre employeur qui pourra vous les changer. Rien de perdu donc, mais il vaut mieux quand même bien vérifier tout de suite la validité de vos titres.
Carole Ferry.
Europe Midi, Romain Desarbres.
On est en direct avec le maire de Maillé en Indre-et-Loire. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Je voulais vous avoir dans Europe Midi aujourd'hui parce que le 25 août est un jour extrêmement triste à Maillé et ailleurs et bien au-delà. Vous rendez hommage aux victimes de l'attaque du village par les nazis. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 août 1944 à Maillé? Racontez-nous.
Écoutez, le 25 août 44, une troupe allemande, donc une troupe de SS, a pénétré dans le village et a massacré tout ce qui vivait, hommes, femmes, enfants et animaux, dans le bourg, dans une grande partie du bourg. Ensuite, ils ont jeté des plaquettes incendiaires sur les corps, dans les bâtiments, et ensuite, ils ont quitté le bourg et une batterie de DCA. Donc, ils ont envoyé des obus, 80 obus, sur les habitations qui étaient en train de brûler pour parfaire le massacre. Et le résultat, 124 victimes, 124 malheureuses victimes, dont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, de tout petits enfants. L'horreur.
Pourquoi ce drame est moins connu que celui d'Oradour-sur-Glane?
Alors la date participe, hein, le 25 août, c'est le jour de la libération de Paris, et donc la libération de Paris l'a emporté sur le massacre de Maillé. Et puis un autre aspect physique, c'est que le bourg a été reconstruit. Je vous disais que le bourg comportait une soixantaine d'habitations. Il y en a eu plus de 50 qui ont été détruites. Mais il a été décidé à l'époque de reconstruire. Et donc, n'ayant pas de traces matérielles, ça a participé en fait à ce silence et à cette méconnaissance.
Bernard Elio, maire de Maillé, merci beaucoup, monsieur le maire. Et Xavier Bertrand était à vos côtés ce matin pour participer à cette cérémonie d'hommage aux 124 victimes de Maillé. Il est 12h52. Dans un instant, on sera avec Simon Rubin qui va rentrer dans le studio. On va parler gros sous et football, c'est souvent associé. 160 millions d'euros proposés pour Kylian Mbappé. C'est le Real Madrid qui propose ça. Pour l'instant, les Parisiens disent non. C'est peut-être pas terminé. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
160 millions d'euros, c'est une somme. Hein. C'est la somme proposée par le Real pour acheter Kylian Mbappé. Pour l'instant, malgré cette fortune sur la table, Paris dit non. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Ça pourrait changer.
Ah oui, complètement. Pour comprendre ce qui se joue, il faut avoir deux éléments en tête. Le premier, d'abord, c'est que Mbappé, il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. C'est son club de cœur depuis qu'il est gamin. Et puis l'autre élément, c'est que Mbappé, s'il est venu à Paris, c'est parce qu'on lui a promis un projet autour de lui, fait pour lui. C'est un garçon qui a de l'ego, Kylian Mbappé. Et l'arrivée de Messi, en plus Neymar, forcément, il a compris que le projet parisien ne tournait pas exclusivement autour de lui. Et donc, dans ce contexte-là, il se dit que le Real, ça pourrait être intéressant. Voilà pourquoi le joueur, en tout cas, serait preneur d'un départ dès l'été.
Alors, Simon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Paris est vraiment face à un dilemme. Expliquez-nous.
Et oui, dilemme, parce que Kylian Mbappé, il arrive en fin de contrat dans un an, dans moins d'un an, même l'été prochain. Ça veut dire qu'il pourra s'engager avec n'importe quel club sans que le nouveau club n'ait à payer un centime pour le transfert. Et ça, pour Paris, c'est compliqué. Soit on vend Mbappé cet été à 160-200 millions, soit on le laisse partir, mais potentiellement gratuitement, sans compensation, l'an prochain. Donc jusqu'à présent, le club a été clair, mais on l'imagine mal dire non, en tout cas balayer d'un revers de manche une offre à 200, voire plus de 100 millions d'euros.
On va suivre tout ça. Merci beaucoup Simon Rubin pour toutes ces informations et cette analyse. La météo, le temps, soleil très généreux aujourd'hui, Anissa Haddadi. Hein.
Oui, très généreux Romain, et il va falloir en profiter puisqu'il s'agit de la journée la plus belle de la semaine. Alors le soleil s'impose presque sur tout le pays. Nous avons une atmosphère très douce grâce à l'anticyclone qui est toujours posté sur les îles britanniques et qui nous protège. Alors cet après-midi, dans cette ambiance très estivale, nous avons toujours sur les côtes de la Manche et les Pays de la Loire ce vent de nord-est qui souffle. Il souffle un petit peu moins fort qu'hier, jusqu'à 40 km/h. Et puis sur les reliefs, attention, hein, sur les Alpes, les reliefs corses, les reliefs pyrénéens et ceux du massif central, des averses se déclenchent. Elles sont très locales. Elles sont souvent accompagnées de quelques coups de tonnerre, mais ces averses seront beaucoup moins intenses que celles d'hier. Alors côté température, je vous le disais, c'est estival. On va vraiment avoir un air d'été. 23 degrés à Saint-Etienne, 24 pour Colmar et Clermont-Ferrand, 25 pour Paris, Rodez et Lorient, 26 à Nantes et à Pau, 28 pour Bordeaux et Montpellier et 31 degrés la maximale en Avignon. Profitez-en, ça baisse dès demain.
Ouh là là, on va en profiter. Merci beaucoup Anissa. 12h57, on se retrouve demain à midi et demi pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.